Chapitre 13. Louveciennes. Madame Hocquart. Le 21 mars 1814. Les étrangers. Le pavillon de Louveciennes. Louis XVIII. Le 20 mars 1815. La famille de Louis XVIII. À mon retour de Suisse, ne désirant pas habiter Paris l'été, j'achetai à Louveciennes la maison de campagne que j'ai encore. Je fus séduite par cette vue, si étendue que l'œil peut y suivre pendant longtemps le cours de la Seine. Par ces magnifiques bois de marly, par ces vergers délicieux, si bien cultivés que l'on se croit dans la terre promise, enfin par tout ce qui fait de Louveciennes un des plus charmants environs de Paris. Une jouissance de plus pour moi, dans mon établissement champêtre, était d'avoir pour voisine Madame Pourrat et sa fille, la comtesse Hocquart. Madame Hocquart est une de ces femmes distinguées avec lesquelles on aimerait à passer sa vie. Son esprit, sa gaieté naturelle, me l'avait toujours fait rechercher, et c'était une bonne fortune que de loger près d'elle. Parmi plusieurs talents qu'elle possédait, elle en avait un si remarquable pour jouer la comédie que, dans certains rôles, on pouvait la comparer sans aucune flatterie à Mademoiselle Contat. Il en résultait qu'il y avait assez souvent spectacle au château et la foule venait de Paris pour applaudir Madame Hocquart. En allant à Louveciennes, je m'étais empressé d'aller visiter le pavillon que j'avais vu au mois de septembre 1789 dans toute sa beauté. Il était entièrement démeublé et tout ce qui l'ornait du temps de Madame du Barry avait disparu. Non seulement les statues, les bustes étaient enlevés, mais aussi les bronzes des cheminées, les serrures travaillées comme de l'orfèvrerie. Enfin, la Révolution avait passé là comme partout. Toutefois, il restait encore les quatre murs, tandis qu'à Marly, Sceaux, Bellevue et tant d'autres endroits, il ne reste que la place. Pendant les premières années qui suivirent mes voyages en Suisse, ayant enfin pris le goût du repos, joint à celui que j'avais toujours eu pour la campagne, je partais pour Louveciennes avant les premières feuilles, en sorte que j'y étais tout établi lorsque les alliés s'avancèrent sur Paris. Chacun sait que les troupes étrangères ont beaucoup plus maltraité les villages que les villes. Aussi n'oublierai-je jamais ma nuit du 31 mars 1814. Ignorant que le danger fût si prochain, je n'avais pas encore médité ma fuite. Il était 11 heures du soir et je venais de me mettre au lit lorsque Joseph, mon domestique, qui était suisse et qui parlait allemand, entra dans ma chambre, pensant bien que j'aurais besoin d'être protégé. Le village venait d'être envahi par les Anglais et les Prussiens, qui mettaient toutes nos maisons au pillage, et Joseph était suivi de 3 soldats à figures atroces qui, le sabre à la main, s'approchèrent de mon lit. Joseph s'est gosillé à leur dire en allemand que j'étais suisse et malade. Mais, sans lui répondre, ils commencèrent par prendre ma tabatière d'or qui était sur ma table de nuit. Puis ils tâtèrent si je n'avais point d'argent sous ma couverture, dont l'un se mit tranquillement à couper en morceaux avec son sabre. Un d'eux, qui paraissait français, ou du moins qui parlait parfaitement notre langue, leur dit bien « Rendez-lui sa boîte !» Mais loin d'obéir à cette invitation, ils allèrent à mon secrétaire, s'emparèrent de tout ce qui s'y trouvait, et mes armoires furent pillées. Je n'en fus pas quitte pour cette fois. Au retour des étrangers en 1815, il revint des Anglais à Louveciennes. Ils me prirent, entre autres choses, un superbe coffre de laque que j'ai beaucoup regretté parce qu'il m'avait été donné à Pétersbourg par mon ancien ami le comte Strogonoff. Enfin, après m'avoir fait passer 4 heures dans la terreur la plus affreuse, ces terribles gens quittèrent ma maison où je ne voulus pas rester davantage. Mon désir aurait été de gagner Saint-Germain, mais la route était trop peu sûre. J'allais me réfugier chez une excellente femme qui logeait au-dessus de la machine de Marly, près du pavillon de Madame du Barry. D'autres femmes, effrayées comme moi, avaient déjà choisi cet asile. Nous dînions toutes ensemble et nous couchions 6 dans une même chambre où il me fut impossible de dormir, les nuits se passant en alerte continuelle, outre que j'éprouvais les plus vives inquiétudes pour mon pauvre domestique à qui je devais la vie. Cet honnête garçon avait voulu rester dans ma maison afin de tenir tête aux soldats et de répondre à leurs exigences, ce qui me faisait trembler pour lui, car le village était de fait livré au pillage. les paysans bivouaquaient dans les vignes et couchaient sur la paille en plein air après avoir été dépouillés de tout ce qu'ils possédaient. Plusieurs d'entre eux venaient nous trouver, se lamentaient sur leur malheur, et ces tristes récits, qu'accompagnait le bruit sinistre de la machine, nous étaient faits dans le magnifique jardin de Madame du Barry, près du temple de l'amour entouré de fleurs, par le plus beau temps du monde. J'étais tellement effrayée de tout ce qu'on venait nous raconter, ainsi que des canonnades ou fusillades que nous entendions sans cesse, qu'un soir, j'essayai de descendre dans un souterrain où je voulais rester. Mais je me fis mal à la jambe et fus obligée de remonter. La dernière affaire eut lieu à Roquencourt. On se battit aussi près du château de Madame Oka, fort voisin de l'endroit où j'étais. Nous sûmes que, le combat fini, les Prussiens avaient saccagé de fond en comble la maison d'une dame très bonapartiste qui, pendant qu'on se battait, criait de sa terrasse aux Français « Tuez-moi tous ces gens-là !» Les vainqueurs qu'il avait entendus entrèrent dans son château, dont ils cassèrent toutes les glaces et tous les meubles, tandis qu'en chemise, sans souliers, elle s'enfuyait jusqu'à Versailles, où elle pouvait trouver un asile. Quoique nous fussions assez mal informés des nouvelles de Paris, il était facile de voir que les bourgeois de Louveciennes, qui se réunissaient tous les soirs dans le lieu que nous habitions, espéraient le retour des Bourbons autant qu'ils le désiraient. Enfin, le maire, dont la conduite avait été aussi honorable qu'énergique, se montra dans le village, entouré de tous les braves gens du pays et revêtu d'une écharpe blanche. Le lendemain, nous étions tous rassemblés dans le jardin, lorsqu'on nous dit que M. Daguet... C'est M. Daguet que le roi chargea de distribuer ses bienfaits aux pauvres. Un des plus honnêtes habitants de Louveciennes était là et qu'il annonçait l'arrivée de M. le comte d'Artois. Cette nouvelle me donna tant de joie qu'oubliant que j'étais dans un jardin, je m'écriai « Faites entrer, monsieur Daguet ! Faites entrer, monsieur Daguet !» Ce qui fit rire mes compagnons d'infortune. Je partis aussitôt pour Paris, laissant à mon grand regret le bon Joseph à Louveciennes pour garder ma maison. J'ai conservé les lettres que je recevais alors de ce fidèle serviteur qui gémissait de voir mon jardin ravagé, ma cave mise à sec, ma belle cour détruite et mes appartements saccagés. « Je les supplie, m'écrit-il, d'être moins méchants, de se contenter de ce que je leur donne. » Ils me répondent « Les Français ont fait encore bien pis chez nous. » En cela, les Prussiens avaient raison. Mon pauvre Joseph et moi, nous étions victimes du mauvais exemple. C'est le 12 avril 1814 que j'eus la jouissance de voir entrer M. le comte d'Artois dans Paris. Il m'est impossible de décrire les douces sensations que ce jour me fit éprouver. Je versai des larmes de joie, de bonheur. On sait assez avec quel enthousiasme la grande majorité des Parisiens reçut nos princes. Comme on demandait à M. le comte d'Artois des nouvelles du roi qu'il précédait, il répondit « Il a toujours mal aux jambes, mais sa tête est excellente. » Nous marcherons pour lui, il pensera pour nous. » L'expérience a prouvé toute la justesse de ce mot, car l'esprit, et surtout la raison de Louis XVIII, était bien nécessaire pour affermir la Restauration à l'époque où le parti bonapartiste était encore aussi nombreux. Enfin, lui-même entra dans Paris, apportant le pardon et l'oubli pour tous. J'allais le voir passer sur le quai des Orfèvres. Il était dans une calèche, assise à côté de Madame la Duchesse d'Angoulême. La charte qu'il venait de faire proclamer, ayant été reçue avec des acclamations de joie, l'ivresse de la foule était grande et générale. Toutes les fenêtres étaient pavoisées sur son passage. Les cris de « Vive le roi !» s'élevaient jusqu'au ciel, poussés avec tant d'élan et de si bon cœur que j'en étais attendri à un point que je ne puis dire. On lisait tour à tour sur la figure de la Duchesse d'Angoulême et la satisfaction que lui causait un pareil accueil, et la pénible expression des souvenirs qui devaient l'assiéger. Son sourire était doux, mais triste. Effet bien naturel, car elle suivait le chemin que sa mère avait suivi naguère en allant à l'échafaud, et elle le savait. Toutefois, les acclamations qu'excitait la vue du roi et la sienne devaient consoler ce cœur affligé. Ces acclamations les suivirent jusqu'aux Tuileries, où la foule qui remplissait le jardin fit éclater les mêmes transports. On chantait, on dansait devant le château. Le roi alors parut à une fenêtre, envoyant 1000 baisers au peuple, ce qui porta l'ivresse à son comble. Le soir, il y eut grand cercle aux Tuileries. Une immense quantité de femmes s'y trouvèrent. Le roi parla à toutes avec une grâce parfaite et rappela même à plusieurs d'entre elles diverses anecdotes flatteuses sur leur famille. Comme j'avais un extrême désir de revoir de près Louis XVIII, j'allais me mêler à la foule qui se pressait le dimanche dans la galerie pour le voir passer quand il allait à la messe. J'étais placé avec tout le monde en face des fenêtres, en sorte que le roi pouvait nous distinguer parfaitement. Dès qu'il m'aperçut, il vint à moi, me donna la main de l'air le plus aimable et me dit 1000 choses flatteuses sur la joie qu'il avait à me retrouver. Comme il resta quelques instants ainsi, me tenant toujours la main et qu'il ne s'approcha d'aucune autre femme, ceux qui nous regardaient me prirent sans doute pour une très grande dame, car dès que le roi fut passé, un jeune officier qui me voyait seul vint m'offrir le bras et ne voulut jamais me quitter qu'il ne m'eût accompagné jusqu'à ma voiture. La plupart des personnes qui revenaient avec nos princes étaient ou mes amis ou mes connaissances. Il était bien doux, après tant d'années d'exil, de se trouver réunis de nouveau dans sa patrie. Mais hélas, ce bonheur ne dura que peu de mois, et tandis que nous nous réjouissions de notre sort, Bonaparte débarquait à Cannes. J'ai pu, comme tout le monde, comparer l'accueil qu'il reçut de la capitale à celui que naguère on avait fait au roi. Ce fut le 19 mars à minuit que Louis XVIII et toute la famille royale quittèrent Paris. Napoléon rentra le 20, mais quoiqu'il fût ramené par l'armée, soutenu par les baïonnettes, les Parisiens n'en étaient pas moins dans un état de stupeur. Chacun savait trop bien qu'il rapportait à la France la guerre et la ruine. Aussi les cris de « Vive l'empereur » étaient-ils fort rares. Soit hasard, soit calcul, il n'entra point de jour. Ce fut à 9 heures du soir qu'il reprit possession des Tuileries, entouré de militaires exaltés et de toute une population morne et triste. Les cours, remplies de troupes, donnaient au palais de nos princes l'aspect d'un château pris d'assaut. Le roi, cependant, s'était retiré à Gand, et je me souviens que des gens du peuple chantaient tout haut dans les rues de Paris
« Rendez-nous notre père de Gand, rendez-nous notre père !»
Je n'ai pas oublié non plus le mot d'une bouquetière qui, pour n'être pas un propos de salon, n'en est que plus caractérisé. Je passai sur le boulevard de la Madeleine et j'entendis une femme qui vendait des bouquets dire à une autre « Eh bien, il n'y a plus rien à faire sur tes lys et je vends toujours mes violettes. »« C'est vrai, répondit l'autre, tes violettes, il est bien aisé de faire dessus, mais sur les lys, je t'en défie. » Sans insulter à la mémoire d'un grand capitaine et aux braves généraux et soldats qui l'ont aidé à remporter de si belles victoires, on peut se demander où ces victoires nous ont conduits et s'il nous reste un pouce de cette terre qui nous avait coûté tant de sang. Pour mon compte, j'avoue que les bulletins de la campagne de Russie me navraient et me révoltaient. Dans un des derniers, après avoir parlé de milliers de soldats français que nous avions perdus, on finissait ainsi « L'empereur ne s'est jamais si bien porté. » Nous lisions ce bulletin chez Mesdames de Bellegarde. Il nous indigna tellement que nous le jetâmes au feu. Ce qui peut attester combien le peuple était las de ces guerres éternelles, c'est le peu d'enthousiasme qu'il montra pendant les 100 jours. Plus d'une fois alors, j'ai vu Bonaparte paraître à sa fenêtre et se retirer aussitôt, très en colère sans doute, car les acclamations se bornaient aux cris d'une centaine de petits gamins que l'on payait, je crois, par dérision, pour leur faire dire « Vive l'empereur !» Que l'on compare cette indifférence de la population à la joie que fit éclater le retour du roi, qui rentra dans Paris le 8 juillet 1815. Cette joie était presque générale, car après tant de malheurs que n'autre que lui venait de causer, Louis XVIII rapportait la paix. Dès lors, on put juger combien ce prince joignait de sagesse et d'habileté aux qualités brillantes de son esprit. Les circonstances étaient difficiles et l'on n'en vit pas moins la France et son roi sortir dignement de l'abîme où Bonaparte les avait plongés. Louis XVIII était bien réellement le monarque qui convenait à l'époque. À beaucoup de courage et de sang-froid, il unissait de l'élévation d'âme et une grande finesse d'esprit. Toutes ses manières étaient royales. Il donnait facilement et avec munificence. Il se plaisait à protéger les arts et les lettres qu'il cultivait lui-même. Ses traits n'étaient point dépourvus de beauté et leur expression avait tant de noblesse que, tout infirme qu'il était, son premier abord imprimait un respect involontaire. Son délassement favori était de causer littérature avec quelques gens d'esprit. Dans sa jeunesse, il avait fait de fort jolis vers et son style était celui d'un homme de lettres spirituel. Comme il savait parfaitement le latin, il aimait à s'entretenir dans cette langue avec nos plus savants latinistes. Sa mémoire était prodigieuse. Il pouvait toujours citer les endroits les plus remarquables d'un livre qu'il avait lu rapidement, d'une pièce qu'il avait vue une fois. Ducis ayant quitté sa retraite pour aller lui présenter ses hommages, Ducis, avant la Révolution, avait occupé un emploi dans la maison de monsieur. Le roi le reconnut, le reçut à merveille et lui récita les plus beaux vers de son Édipe, dont le vieux poète se souvenait à peine. Louis XVIII aimait beaucoup la comédie française. Il allait souvent à ce théâtre et il appréciait surtout le talent de Talma. Lorsqu'il arrivait que ce grand acteur se trouvant semainier portait les flambeaux pour le conduire à sa loge, le roi s'arrêtait toujours longtemps à causer avec lui et ses conversations avaient lieu en anglais que tous les deux parlaient aussi bien que leur langue. On m'a rapporté que Talma disait « Je préfère la grâce de Louis XVIII à la pension de Bonaparte ». Cette grâce, en effet, est le plus grand charme des princes, elle double le prix du moindre don. Sous ce rapport, M. le comte d'Artois ne le cédait en rien à son frère. On n'a point oublié cette foule de mots heureux, marqués au coin de la bonté, qui lui gagnait les cœurs. Lorsqu'après la mort de Louis XVIII, il fut devenu roi, je me trouvais au Louvre le jour où il distribuait les médailles aux peintres et aux sculpteurs. Avant de les donner, il dit de l'air le plus gracieux, « Ce ne sont pas des encouragements, mais des récompenses. » Tous les artistes furent touchés de ce qu'il y avait de fin et de flatteur dans ses paroles. Il m'aperçut dans la foule, vint à moi et me témoigna si vivement la joie qu'il avait à me revoir, à me retrouver bien portante, que j'eus peine à retenir des larmes de reconnaissance, car personne ne savait mieux que lui trouver le mot qui vous allait au cœur. Si M. le duc de Berry n'avait peut-être pas toute la grâce de son père, il en avait l'esprit, et surtout l'esprit d'à propos si utile au prince. J'en choisis un exemple entre mille. La première fois qu'il passa des troupes en revue, il entendit partir des rangs quelques cris de « Vive l'empereur !»« Vous avez raison, mes amis, » dit-il aussitôt. « Il faut que tout le monde vive. » Alors ces mêmes soldats crièrent « Vive le duc de Berry !» La bonté de son cœur était si grande que non seulement il s'intéressait à tout ce qui touchait ses amis, mais qu'il se conduisait avec les gens de sa maison comme aurait pu le faire un père de famille. Il était adoré de tous ses domestiques et se servait de cette influence pour les encourager dans la bonne conduite et les engager à placer les économies qu'ils pouvaient faire. Un jour, comme il allait monter en voiture, un petit garçon de cuisine court vers lui disant « Mon prince, j'ai économisé 15 francs cette année. » Eh bien, mon enfant, cela t'en fait 30, répondit le duc de Berry, qui lui doubla la somme. Lui-même mettait beaucoup d'ordre dans son revenu. Ses plus fortes dépenses étaient occasionnées par le goût qu'il avait pour les arts, goût que partageait son aimable femme. La duchesse de Berry aimait à encourager les jeunes artistes. Elle achetait leurs tableaux et leur en commandait fort souvent. La générosité avec laquelle elle payait ne la dispensait jamais de mettre une grâce parfaite dans tous ses rapports avec les hommes de talent. Je n'oserais parler de Madame la Duchesse d'Angoulême. Que dirais-je qui ne soit au-dessous du vrai? Les vertus de cette princesse sont connues du monde entier et je craindrais d'affaiblir ce qu'en dira l'histoire. On sait de même que le sort l'unissait à un prince dont l'âme pure était digne de l'apprécier. Telle était la famille que nous ramenait la Restauration. C'est aux hommes politiques qu'il appartient d'expliquer comment tant de vertus et de bonté n'ont pas suffi pour lui conserver le trône. Mon cœur reconnaissant ne doit que le regretter.